Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Les cycles de la lune, l'élaboration du compost ou les rotations des cultures, tous ces thèmes n'auront plus de secret pour vous grâce au guide du jardinier en biodynamie. Son auteur Peter Berg, un maître jardinier allemand, partage avec nous son savoir dans ce livre pratique et richement illustré. Et c'est Gauthier Baudouin, responsable des éditions du mouvement de l'agriculture biodynamique, qui nous le présente au micro de Jean Tonelli.
Ça s'adresse à n'importe quel jardinier qui aimerait se lancer dans un jardinage sans utiliser de produits chimiques, un jardinage biologique, et qui s'intéresse également à la biodynamie pour aller un petit peu plus loin dans ses pratiques respectueuses de l'environnement.
D'abord, il parle des principes de base au travers d'un petit résumé de la biodynamie en fait, et après il attaque le corps de sa présentation avec activer et vivifier le sol. Est-ce que ça c'est important dans l'agriculture biodynamique?
L'essentiel, c'est d'entretenir son sol et de faire vivre son sol pour que celui-ci puisse nourrir les plantes et que les plantes qui y poussent soient saines de façon naturelle. Donc c'est vraiment le cœur de l'activité du jardinier biodynamique, c'est de s'occuper de son sol avec les préparations biodynamiques, le compost et le compost biodynamique.
Il est assez précis dans les six préparations du compost.
Il est assez précis, effectivement, surtout sur les fleurs qu'on utilise et les moments propices à leur récolte. Par contre, pour l'élaboration de ces préparations en tant que telles, qui nécessitent encore d'autres ingrédients, des organes animaux, c'est plus compliqué pour un jardinier amateur de le faire soi-même. Donc, il propose de se lier à des groupes avec des agriculteurs qui font ça en commun.
Donc là, chaque jardinier peut faire son propre compost.
Ah, tout à fait. C'est même essentiel pour tout jardinier d'élaborer son propre compost. C'est important à plus d'un titre. Hein. Ça permet déjà de recycler tous nos restes de cuisine, tous les restes végétaux du jardin et d'apporter une nourriture tout à fait qualitative à son sol.
Pour obtenir un bon compost, il y a quelques règles d'or au nombre de 4. Réduire, mélanger, tenir humide et couvrir.
C'est important d'apporter des éléments relativement fins dans le compost, hein, parce que on veut nourrir des tout petits êtres vivants qui ont besoin plutôt de petits morceaux pour que les choses évoluent vite. Donc on peut pas mettre une grosse branche de bois dans son compost, elle ne va pas évoluer. Par contre, si on la réduit en tronçon, en copeaux carrément, voilà, là on a une chance que les organismes vivants fassent leur travail et la décomposent en éléments fertiles. Donc réduire,
mélanger les matières sèches, matière humide, on va dire ça comme ça.
Il faut toujours avoir le bon rapport entre matière sèche et matière humide dans un compost, entre carbone et azote, quoi.
Ne pas le laisser se dessécher en troisième point.
Toujours garder un bon degré d'humidité dans son compost. Ça demande qu'il soit dans un endroit plutôt abrité et qu'il soit couvert. C'est le quatrième point très important. Pour que la vie se développe à l'intérieur du compost, il faut qu'il soit séparé de son environnement par une sorte de pot qui peut être réalisé avec de la paille, des feuilles mortes ou des bâches respirantes qui existent aussi, des géotextiles spéciaux qui existent pour faire ça.
C'est ça. Ce qui est important, c'est que le compost puisse respirer. Il ne s'agit pas de mettre une bâche étanche au-dessus. On rentrerait dans des phénomènes anaérobie, ça ne serait pas très bon.
Oui, tout à fait. Il faut qu'à la fois il soit séparé de l'environnement, mais qu'il soit quand même respirant. Donc, comme pour notre peau, c'est une barrière, mais pas une barrière étanche.
D'accord. Pour vivifier le sol, il propose aussi, après le compost, l'engrais vert.
Très pratiqué, en tout cas, dans son maraîchage. Donc, il propose également des itinéraires de rotation de culture dans lesquels il inclut très régulièrement des engrais verts pour que le sol soit au minimum découvert pendant l'hiver et toujours décompacté par les racines de ces plantes d'engrais verts qui vont travailler à la place du jardinier finalement.
Et il utilise des engrais verts particuliers ou pas?
Alors les engrais verts qu'il cite n'ont rien de très exceptionnel, hein. Pour l'hiver, il propose des mélanges vesse-seigle qui sont très très répandus mais très efficaces. Il parle de légumineuses, du trèfle, le lupin, le trèfle, donc des choses qui peuvent apporter de l'azote dans le sol.
Et ensuite, l'idée qui prévaut toujours en biodynamie et qu'il essaie de nous faire comprendre assez finement d'ailleurs, de façon synthétique aussi et bien organisée, c'est la rotation des cultures.
Voilà, donc la rotation des cultures, c'est un point essentiel pour pour s'éviter bien des soucis de maladie ou de détérioration de son sol. Donc le principe, c'est de jamais faire revenir deux plantes de même famille au même endroit à moins de 4-5 ans d'intervalle, quoi. De la sorte, on a moins de problèmes de maladies, puisque les prédateurs de cette famille de plantes, enfin, les prédateurs sont en général prédateurs de toute une famille de plantes, donc les prédateurs de cette famille de plantes n'ont pas la possibilité de se reproduire chaque année, de rester dans le sol au même endroit.
Oui, et de s'installer de façon durable.
Voilà, exactement, oui.
Il est assez minutieux, j'ai l'impression, parce qu'il aime bien planifier et préparer son année, quoi, on va dire.
C'est assez important pour un jardinier à partir du moment où on commence savoir un petit peu de surface. On a souvent l'impression qu'on va réussir à retenir tout ce qu'on a fait, mais finalement c'est pas le cas. Donc toujours noter ce qu'on plante, à quel moment, à quel endroit, pour pouvoir organiser justement sa rotation de culture. Et dès l'hiver, on peut préparer à quelques jours près, hein, peut-être une dizaine de jours près, ce qu'on va planter, ce qu'on va semer dans son jardin à l'année suivante. Ça permet de pas se retrouver au printemps devant une masse de travaux à faire sans plus d'idée, de se sentir dépassé, quoi.
Bon, lui il trouve que travailler le sol est aussi très important, et le binage qui vaut deux arrosages dans notre dicton français, il est pour, et il est pour de manière ergonomique, c'est-à-dire qu'on ne va pas se casser le dos à biner pour se dégoûter du binage.
C'est vrai que là, il présente des outils qui ont la particularité d'avoir des manches vraiment longs, ce qui permet par exemple de biner avec le dos bien droit. Pour le travail du sol, vous disiez, mais très peu pour le bêchage, pour le retournement pur et dur du sol. Il parle beaucoup de fourche-bêche ou on peut prolonger ça avec la grelinette, des choses qui permettent de faire des travaux du sol.
Pas mélanger les couches superficielles et plus profondes du sol.
Tout à fait, et de conserver aussi le dos du jardinier. C'est des travaux moins fatigants que le bêchage proprement parlé.
Ce qui nous présente aussi d'intéressant, je trouve, c'est qu'il ne s'agit pas de vouloir beaucoup, il s'agit de vouloir bon, et il est pour soigner, mais surtout tailler les plantes, hein, pincer les tomates, les poivrons, faire en sorte qu'il y en ait moins mais mieux. Pareil au niveau des courgettes, enfin il gère bien sa production pour avoir le meilleur fruit possible.
C'est-à-dire qu'on a souvent beaucoup au même moment et on ne sait plus trop quoi faire de tout ce qu'on récolte. Donc l'idée, c'est de peut-être avoir un petit peu moins de production, mais par contre de pouvoir l'étaler dans le temps et de pouvoir avoir une production de qualité, quoi. Comme on l'a vu, tout ce dont on a parlé précédemment, c'est de la prévention, hein, faire un bon compost, bien entretenir son sol, faire une rotation de culture, tout bien planifier, ça permet déjà d'avoir moins de problèmes qui apparaissent au jardin. Et si des problèmes apparaissent, on a aussi des solutions curatives, mais naturelles. Donc on connaît tous l'ortie, le purin d'ortie, les tisanes d'ortie, la consoude, d'autres plantes qui sont très utiles pour repousser les insectes, des préparations biodynamiques de cils de corne qui sont très utiles contre les limaces, etc. Donc il donne toute une liste de recettes qu'on peut faire soi-même avec des produits qu'on trouve dans la nature ou qu'on achète peu cher pour soigner son jardin.
Récolter au bon moment, c'est quand même mieux pour la conservation des légumes récoltés et puis pour leur goût.
Tout à fait, hein, tout au long du livre, il n'oublie pas l'aspect travail avec les rythmes cosmiques, et particulièrement pour les récoltes, récolter des fruits de conservation au bon moment par rapport au rythme lunaire, c'est très efficace pour leur permettre une conservation longue.
Bien, après il nous parle aussi de faire ses propres semences, qui est là à nouveau la pérennité de l'agriculture, enfin du maraîchage, hein, on devient autonome dans la manière de gérer son jardin. Oui, en tout cas c'est un livre qui est sympa à lire parce qu'il est d'abord assez synthétique, comme je le disais, bien organisé au niveau de ses chapitres, et les dessins sont naïfs mais sympathiques, et on reconnaît bien les plantes dont il parle.
Le guide du jardinier en biodynamie, un ouvrage signé Peter Berg.